We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Gloire à vous, Seigneur Jésus, et gloire à vous, mon cher Christian Page, d'être avec nous ce soir.
Oh,
je suis dans l'esprit de Noël, mon cher.
Oui,
Oui,
moi aussi, je suis dans l'esprit de Noël, mais là, faut pas le dire fort, le mot Noël, là, c'est comme devenu le mot tabou.
Oui, c'est le mot discriminatoire, mon cher.
Oui, c'est le mot discriminatoire.
Et
hein, c'est ce que nous dit la commission de
des droits de la
canadienne
personne.
Des droits de la personne. Et on peut se demander un peu ce qu'ils visent avec ça, parce que, tu sais, hier matin, tout le monde était tout heureux, puis hier à 10h, tout le monde était en tabarnouche.
Oui. Ça a été un gros 24 heures, hein. Même
oui, certainement. Tu dis, mais vous visez quoi avec ça, là? Tu sais, c'est, vous voulez susciter l'animosité, parce que la plupart des gens, évidemment, ont perçu ça, les Québécois et les Québécoises, qui, à mon avis, est l'une des sociétés les plus accueillantes qui existent en Amérique du Nord, se faire dire une bêtise comme celle-là. Tu dis, ça, c'est des fonctionnaires qui nous ont sorti ça. J'espère que ces fonctionnaires-là, heureusement, sont des fonctionnaires fédéraux, parce que j'allais dire, espérons qu'ils sont pas sur les lignes de grève actuellement, parce que clairement, c'est ces gens-là sont beaucoup trop payés pour nous sortir une absurdité semblable.
Ah, j'aime ça.
Beaucoup trop.
Ils ont beaucoup trop. L'éditorial de Christian ce soir.
Ils ont beaucoup trop de temps libre et beaucoup trop de beaucoup trop payés pour nous sortir un truc comme celui-là.
Voyons, je te confirme ce soir que du 1134 Grande Allée Ouest à Québec, pour la première fois en 5 ans, il y a quelqu'un qui a pensé d'ériger un sapin directement à même le studio. Donc j'ai un sapin à peu près à la hauteur là à 2 heures là dans mon champ de vision.
Ouais.
Et ça illumine ma soirée. Je suis vraiment contente qu'on embarque dans le tabou. Ouais. Justement,
parce que je pense que de toi à moi, puis j'ai des amis qui sont d'autres obédiences, hein, musulmans, hindouistes, puis jamais je crois pas que ces gens-là se soient jamais plaints de la fête de Noël. Je me demande qu'est-ce qui percole dans leur tête à ces gens-là derrière leur bureau de dire ouais, c'est, finalement 25 de décembre.
C'est surtout qu'on
n'a pour les autres.
On n'a jamais dit aux gens, parce que vous ne soulignez pas la fête chrétienne de Noël, vous devez rentrer travailler.
Non,
plus.
C'est ça, non.
C'est
vous
le congé
avez,
est acquis pour
vous
tout le monde.
Vous avez une journée de congé. Voilà, vous avez vous aussi une journée de congé. Tu sais, je veux dire, ben, je peux comprendre que les gens d'obédience musulmane diront, oui, mais on n'a pas un congé durant le Ramadan. C'est vrai. Mais vous êtes dans une société d'accueil. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis en même temps, on dit, tu sais, c'est comme, si tu veux pas, si tu considères que Noël, on a mis deux congés dans la fête, dans la fête, qui sont liés à des fêtes religieuses,
oui,
qui est Pâques et Noël. Ben, si toi, tu n'es pas de l'obédience religieuse qui est visée par ça, ben, profite des congés, puis va faire ton magasinage au Walmart, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut, si vraiment ces gens-là, excuse-moi l'expression qui peut paraître un peu grossière, là, mais des fois, tu dis, il y a vraiment des gens, là, qui ont rien d'autre à faire que d'enculer des mouches.
Oui.
C'est exactement ça. Voyons, oh. Ces gens-là se sont réunis autour d'une table. Puis on dit, hey, c'est ça, c'est, tu dis, mais voyons, c'est fou raide. Tu dis, mais ça, c'est quand, c'est fou raide. J'ai pas, et bref, ça me donnait envie de te, comme on était dans l'esprit des fêtes et de Noël.
Ben oui.
Et on parlait de la fête religieuse, puis c'est vrai que c'est devenu de moins en moins une fête religieuse pour la plupart des gens, hein.
C'est la fête de l'amour, des cadeaux,
ouais,
du partage.
Des cadeaux, c'est le partage, etc.
On vient d'ouvrir la première fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Donnez-nous un brin. T'es en feu ce soir, Christian, je le vois. Et ce soir, on parle du mythe de la naissance de bébé Jésus.
Ouais, ben en fait, le mythe, c'est assez amusant parce que, tu sais, quand j'ai entendu parler de ça hier, oui, bon, on souligne la naissance du Christ. C'est vrai que la fête de Noël, c'est la naissance du Christ. Mais je me suis posé la question, tu sais, comme on est dans notre thématique des énigmes de l'histoire,
oui,
tu dis, attends une minute, est-ce que tu savais que l'idée que l'on se fait de la naissance du Christ est à 90% complètement inventé ou ne fait pas partie des écritures religieuses?
Christian, j'ai toujours douté de l'étable.
Ah, ben, t'as douté de l'étable?
Oui.
Écoute, je veux, avant qu'on commence cette émission-là, je dois quand même faire une petite... on va aborder l'aspect historique de la chose et non pas l'affaire religieuse de la chose.
Ben oui.
J'ai énormément de respect pour les gens, quelle que soit leur religion, qu'ils soient d'obédience musulmane, hindoue, que ce soit chrétien. Mais moi, comme étudiant à l'université, je m'intéressais à l'histoire, et j'avoue que l'histoire du christianisme ou même l'histoire du judaïsme, ce sont des histoires dans lesquelles on a baigné parce que ça fait partie de notre culture. Hein, je veux dire, on a tous grandi avec l'idée de l'arche de Noé, Moïse, on a tous vu hein, Charlton Heston qui sépare les eaux de la mer Rouge là, pour faire traverser à gué les Hébreux qui fuient l'Égypte. T'sais, on a tous vu ces trucs-là et on a grandi là-dedans, du moins les gens de ma génération. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est à l'écoute ce soir, qui a 50 ans et plus, qui n'a pas été bercé dans son enfance par ces histoires, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma, que ce soit même à l'école. Hein, à l'époque, on avait nos livres de catéchèse, on avait nos cours de catéchèse, oui. On racontait les histoires. On a grandi
J'ai connu la toute fin de ça quand même. Ouais. Je suis jeune, mais début primaire, il y avait l'enseignement religieux catholique encore.
Ouais, ouais. Puis ça a disparu, puis ça a été remplacé par autre chose. C'est bien aussi. Tu sais, je veux dire, ça a été une époque. Mais ce qui moi m'amusait, c'est que tu sais, pour reprendre un titre d'un film, c'est l'histoire, la plus grande histoire jamais contée. Ben effectivement, tu sais, l'histoire de cet enfant né dans une étable, puis qui va devenir le Sauveur, le Christ. Bon, il y a quelque chose de tout à fait fabuleux là-dedans. Puis c'est vrai également pour les autres messies des autres grandes religions, là, que ce soit qu'on parle ici de Mahomet, qu'on parle de Bouddha, ils ont tous des histoires qui sont plus grandes que nature, hein, l'histoire de leur enfance, leur histoire de leur jeunesse et comment ils vont devenir en fait les représentants de tout un courant philosophique. C'est bien sûr des histoires qui sont plus grandes que nature. Et ce soir, je me suis dit, bon, puisqu'on a beaucoup parlé de la fête de Noël, puis on en parlait encore hier avec des amis, puis je dis, ouais, mais ça, veut dire, la fête religieuse, c'est une espèce de construction qu'on a fait autour de la naissance de Jésus, quoique il y a beaucoup de choses à propos de la naissance de Jésus qui nous est inconnue. Mais avant d'aller plus loin, je dois t'avouer, Camille, que l'émission la plus douloureuse pour moi que j'ai faite à l'antenne de Radio X-Files, c'est une émission il y a quelques années avec Yannick Marceau.
OK.
Qui était sur, on avait fait une émission que moi je trouvais le sujet passionnant, et c'est un sujet qui me passionne encore aujourd'hui. Il suffit de m'entendre en parler, il suffit d'assister à mes conférences, il suffit de lire mon livre À la recherche des reliques saintes. C'est vrai que ces histoires fabuleuses qui sont liées au judaïsme, au christianisme, ont toujours passionné. Et il y a quelques années, donc j'avais fait avec Yannick Marceau une émission que je croyais de bon goût, mais visiblement beaucoup d'auditeurs n'ont pas vu ça de la même façon. L'idée de l'émission était nous allons parler, y a-t-il eu un Jésus historique?
C'est
une question qui est tout à fait légitime, mais malheureusement, j'avais pas mis suffisamment de mise en garde, parce que ce que j'ai pu voir à l'issue de cette émission-là, qui reste encore pour moi très douloureuse quand j'y pense, c'est que les gens n'ont pas compris la différence entre la religion, l'histoire et l'archéologie.
Ouais.
Beaucoup de gens mêlent tout ça ensemble, alors que ce sont trois disciplines qui sont tout à fait étrangères les unes des autres.
Donc on va prendre la peine ce soir de tracer la grande ligne. Ouais, on est dans l'histoire.
On est dans l'histoire et l'archéologie. On n'aborde pas les questions de la religion. Autre chose aussi que je dois dire, je sais, y a pas personne qui va me faire la leçon là-dessus, là. Je sais pertinemment que dans le courant historique et archéologique, il y a deux écoles qui ne sont pas tout à fait d'accord.
Okay.
Une première école, qui est une minorité, hein. L'ai-je bien dit, là? C'est une minorité. Il y a une minorité d'historiens et d'archéologues qui croient que le Jésus historique n'a jamais existé. Qu'en fait, Jésus est un personnage composite qui a été créé dans le premier siècle, après, donc, la soi-disant existence de Jésus. Et c'est un personnage composite que l'on a fait en récupérant auprès de d'autres philosophes ou d'autres thaumaturges de l'époque. On pense, par exemple, à un type qui s'appelait Apollonius de Tyane, qui était très populaire quelques années après le Christ. On est aux alentours de l'an 30-40, à peu près au moment où le Christ, en théorie, de selon le calendrier chrétien, au moment où le Christ est crucifié, il y a ce Apollonius de Tyane, qui lui aussi est un thaumaturge dans son petit coin de pays et qui est très populaire. Puis aussi, on avait des philosophes à l'époque, on pense à Aristote, on pense à Platon, des philosophes qui avaient précédé le Christ avec toutes sortes de philosophies. Donc,
Il y avait une influence aussi de la mythologie, j'imagine, là-dedans.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours se rappeler aussi que les peuples de Judée ont été à la fois conquis, mais ont également côtoyé les grandes sociétés de cette région-là du monde, hein, de tout ce Moyen-Orient élargi. On pense, par exemple, aux Égyptiens, on pense aux Babyloniens, on pense aux Syriens. Ils ont tous été en contact les uns avec les autres. Et bien sûr, on voit des influences à travers la culture qui va se développer dans ce pays-là. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est qu'on a une minorité d'archéologues et d'historiens que je respecte. Et quand je parle d'historiens et d'archéologues, c'est pas des archéologues et des historiens du genre « faites vos recherches, là, je les dois, là ». Non, non, ce sont vraiment des gens gens avec avec des diplômes patentés qui viennent de grandes universités et qui partagent cette vision-là que il n'y a pas eu de Jésus historique. C'est une image composite, une espèce de sans vouloir être méprisant. Là, c'est comme si Jésus était un peu un monsieur patate, hein, okay. Monsieur patate qu'on a pris des lunettes à gauche, on a pris une moustache, on a pris une capine, un petit chapeau, puis des petits gants, puis des petits bras, puis on a fait un personnage. Mais c'est une minorité, faut le dire. Là. Et je sais qu'il y en a probablement des gens qui nous écoutent qui sont de cette foi, de cette vision-là, que Jésus n'a jamais existé, que c'est cette vision-là, et elle est défendable et elle est respectable puisqu'elle est appuyée par tout un courant de pensée dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire. Mais elle forme quand même une minorité. La majorité des historiens, et quand je parle de la majorité des historiens, je parle de près de 90% des archéologues, des historiens, sont d'avis qu'il y a bel et bien eu un personnage historique. Ce n'est pas à l'histoire, ce n'est pas à l'archéologie à répondre, était-il le fils de Dieu, a-t-il fait toutes les miracles qu'on lui attribue. Ça, ce sont des récits qui ont été catéchisés, qui ont été améliorés, pour représenter une foi. L'archéologue, l'historien n'a pas à se pencher là-dessus. Mmh. Mais pratiquement 90% des historiens, des archéologues croient qu'il y a bel et bien eu un Jésus historique, donc un personnage en Judée qui devait être une espèce de prédicateur qui a influencé la pensée de gens autour de lui, de communautés autour de lui, et que son influence a été ensuite instrumentalisée. Le personnage, comme son message, ont été instrumentalisés pour donner naissance au christianisme.
Parce qu'il y a un monde entre exister et avoir marché sur l'eau, exemple.
Ouais, c'est ça. Et le christianisme, faut quand même se le dire, ça demeure encore aujourd'hui la religion la plus répandue à travers le monde. Mais ces historiens, ces archéologues sont tous d'accord que le personnage lui-même était probablement beaucoup plus petit que nature et que son discours a été instrumentalisé comme le personnage. Et c'est difficile parce que dans le cas principalement de Jésus, autant ceux qui disent qu'il n'a pas existé que ceux qui disent qu'il a existé, et encore faut-il préciser et insister pour dire que ceux qui croient qu'il a existé comme personnage historique, on s'entend bien, est de très très loin supérieur aux autres. Mais néanmoins, dans les deux cas, on doit quand même se rendre à l'évidence qu'on a peu de choses à propos du personnage. On n'a pas d'écrit de sa main. On n'a pas d'artefacts qui ont été apparemment conservés, qui sont liés à son existence, et je sais de quoi je parle. J'ai écrit un livre sur le sujet. Là, ouais. J'ai essayé de les trouver. Hein, la couronne d'épines, les chaussures du Christ, la tunique, le Saint-Suaire, le linceul de Turin, tout ça. Ce sont des objets qui sont précieux, des objets qui suscitent une énorme dévotion auprès des fidèles. Mais malheureusement, sur le plan historique, il est à peu près impossible d'associer ces artefacts, ces objets, au personnage lui-même. Et pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. Parce que dans un premier temps, on n'a pas toujours accès à l'objet lui-même. Hein. Les détenteurs de l'objet, et très souvent ce sont des groupements religieux ou l'Église elle-même, n'est pas très intéressée de voir la science se mêler de ces histoires-là.
Ouais.
Et c'est pas par crainte de quoi que ce soit. La position, faut pas se tromper entre la science et la religion. La religion, elle dit, écoute, le Saint-Suaire de Turin, c'est le Suaire de Turin, c'est ça, ça représente le corps du Christ, voilà. Ceux qui veulent y croire, y croient. Ceux qui veulent pas y croire, libre à eux de ne pas y croire. La religion n'a pas à s'appuyer sur la science. La religion s'éprouve, hein. Tu comprends, c'est un mouvement spirituel. On n'a pas besoin de la caution de la science. On n'a pas besoin de la caution de la science pour savoir si un homme peut marcher sur les eaux, s'il peut multiplier les pains, s'il peut guérir des aveugles. C'est pas à la science de répondre à ça, pis on en a rien à cirer. Donc, si les gens veulent croire que tel ou tel objet est fabuleux, merveilleux, parce qu'il est représentatif de tout un univers religieux, libre à eux de le faire, mais la religion n'a pas à se mêler de ça. Et je comprends cette position-là. Je la partage pas. Mais je la comprends. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre un peu pourquoi les gens ont ces visions-là. Et on ne peut pas associer ces objets-là, on peut pas remonter dans l'histoire jusqu'au Christ, et pour plusieurs raisons. Parce que beaucoup de ces objets-là sont apparus plus tardivement. Même si on nous dit ça, c'est les gogounes de Jésus, là. C'est les gogounes, quand on les analyse, on découvre que ça a été fabriqué autour du 8e, 9e siècle. Donc, ce sont des objets qui sont apparus plus tardivement, qui ont été utilisés à la fois pour susciter l'intérêt des fidèles, à la fois pour faire de l'argent, hein, faut pas se le cacher. Lorsqu'il y avait des grands pèlerinages, les grandes cathédrales d'Europe qui avaient des objets qui avaient appartenu ou que l'on disait ayant appartenu au Christ, ben, évidemment, suscitaient le détour auprès des fidèles et ça suscitait c'était des oboles, donc un obole, c'est de l'argent. Donc, évidemment, on a exploité cet aspect-là. Et d'un autre côté, si de tels objets étaient réellement liés au Christ, Il faut savoir que jusqu'au 4e siècle, le christianisme, les gens qui partageaient le christianisme étaient persécutés par Rome. C'était pas une grande persécution, là, contrairement à ce que souvent les gens s'imaginent, là, qu'on faisait des rafles, on ramassait les chrétiens et on les jetait aux lions, là, dans l'arène à Rome. C'est okay. pas tout à fait comme ça
ah
que
non!
ça se passait.
Okay.
Non. Et oui, il y a eu des séquences comme ça. Mais c'était plutôt comme pour, les persécutions contre les chrétiens étaient plutôt c'était un peu comme pour acheter la paix. Hein. Quand il y avait un moment donné, il y avait des troubles dans la société, et principalement dans la société romaine qui gouvernait à l'époque, ben pour calmer le jeu, on disait, bon, là, ça va pas bien, on va faire une rafle, on va accuser les chrétiens de ci ou de ça. Donc, les chrétiens devenaient un peu les boucs émissaires de tous les problèmes qu'il y avait dans les sociétés. Et on faisait une rafle, on en ramassait 4-5, puis on les jetait au lion, puis là, on était bon pour plusieurs mois sans entendre parler des chrétiens.
C'était dissuasif.
Ouais, c'est ça. Donc c'était une persécution, mais pas une persécution qui était soutenue et omniprésente comme parfois on peut l'imaginer. Cela étant dit, donc on n'a pas d'écrit de la main de Jésus, on n'a pas d'artefact qui nous permet de croire à l'existence physique. Donc on a essentiellement que des textes et malheureusement très peu de textes laïcs. Hein. Il y a quatre ou cinq textes laïcs qui parlent de Jésus, puis quand ils en parlent, ils en parlent très largement, hein. C'est pas très précis, hein. Je pense par exemple à Pline le Jeune qui dit, ah ouais, il y avait un type à l'époque en Judée, on a créé un mouvement autour de lui qui se nomme les chrétiens. C'est vague, hein. On dit pas grand chose sur le personnage. On pense à Clavius Joseph, hein, qui a écrit un texte, hein, qui raconte l'histoire des Juifs, puis dit, ouais, dans ces temps-là, il y avait un individu en Judée là qui suscitait beaucoup d'intérêt et que bon, tu sais, c'est toujours vague,
toujours
on donne
dans le
pas
mystère.
Beaucoup on fait référence à quelqu'un ou à quelque chose mais sans trop mettre d'emphase sur ce que c'est.
Comment est arrivé dans ce cas-là, si on revient à Noël, comment est arrivée la date du 25 décembre?
Voilà, c'est ça. Et donc on n'a pas ces éléments-là, donc je peux comprendre ça. Et juste avant d'aborder notre question de Noël, je vais donc le dire parce que je veux pas revivre l'expérience que j'ai vécu avec Marceau.
C'est parfait.
Donc, si les gens qui nous écoutent, qui vous êtes de l'idée que Jésus a jamais existé, ben, je vous donne 15 secondes parce que c'est peut-être le moment pour vous de changer de station. Parce que cette émission-là ne s'adressera pas à vous. Nous, on va partir sur le principe qui est partagé par l'ensemble des historiens et des archéologues, à savoir qu'il y a réellement eu un personnage. Ce personnage, certainement moins grand que le Jésus des Évangiles, mais probablement un prédicateur qui, dans son temps, a suscité énormément d'intérêt. Et uniquement par la bande, comme ça, pour te le dire, l'élément le plus convaincant que les historiens ont pour dire, voilà, il y a dû y avoir un Jésus, c'est qu'il faut savoir qu'autour de l'an 30, il y a eu un mouvement profond dans la Judée, une prise de position très particulière en Judée, et qu'il ne peut se justifier que par un événement social important. Or, le seul événement social important qu'on a pour cette époque, c'est la crucifixion de Jésus et la naissance du christianisme. Donc ça, c'est l'élément le plus important que les historiens se disent ça, là. Si Jésus n'a pas existé, s'il n'y a pas eu ce personnage, on voit mal comment on pourrait justifier cette transformation du tissu social.
Comment se fait-il que ça a existé, en fait?
Voilà, c'est un peu comme dire, bon, il n'y a jamais eu de révolution tranquille au Québec, mais comment se fait qu'on est passé de tel statut à tel autre statut si on exclut l'idée de cette révolution tranquille? Donc, le Jésus a été un peu comme une forme de révolution tranquille auprès du peuple de Judée aux alentours de l'an 30. Donc, on va partir, nous, là, je le dis pour les gens qui nous écoutent, nous, on part du principe qui n'est pas entièrement partagé. On le sait, il y a des voix dissidentes, mais on part du principe que ce Jésus historique a probablement existé.
Je suis vraiment encouragée, Christian, parce que moi, à date, j'ai que des questions pour toi, puis ça a l'air d'être des questions extrêmement pertinentes et non pas de critiques là pour le sujet de ce soir. Fait que
donc,
ça va bien.
Si on part de cet élément-là, OK, on joue le jeu. OK, c'est parfait. Ce personnage-là existait. Si je te demandais à toi, comme si je demandais aux auditeurs de nous raconter l'histoire de la naissance du Christ, ben la plupart raconteraient une histoire assez semblable à ce que je vais te dire. Donc, c'est le Saint-Esprit, il va engrosser Marie, hein, qui est vierge à ce moment-là.
Immaculée Conception.
Ouais, c'est l'Immaculée Conception. Et puis là, on nous raconte qu'il y aurait eu un recensement et que Joseph a dû se rendre à Bethléem parce qu'il était originaire de Bethléem pour aller se rapporter pour le recensement qui avait été demandé par Rome. Et à ce moment-là, alors qu'il était à Bethléem, son épouse, enceinte, très enceinte, hein, va accoucher, mais comme beaucoup de gens, à cause du recensement, beaucoup de gens sont retournés à Bethléem. Les hôtels, les places pour être accueillis sont remplies. Donc, Joseph et son épouse enceinte ne trouvent place que dans une étable, et c'est là, dans cette étable, que va naître l'enfant Christ. Et à ce moment-là, on raconte aussi que, guidé par une espèce d'étoile ou un phénomène extraordinaire, trois rois mages ont suivi la trace de ce message, de ce messager céleste, pour se retrouver dans cette petite étable, où ils vont offrir à l'enfant Dieu, ils vont offrir de la myrrhe, de l'encens et de l'or, et ensuite Joseph et Marie et l'enfant Jésus vont quitter Bethléem, mais ils vont le quitter un peu précipitamment parce que là encore une fois, un messager céleste a annoncé que Hérode allait faire massacrer tous les enfants, parce que Hérode, ayant appris qu'un enfant, un nouveau roi était né en Judée, ce qui menaçait bien sûr sa couronne, Hérode aurait décidé de faire massacrer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. C'est ce qu'on va appeler le massacre des innocents.
Ah, vois-tu, quand j'étais jeune, je pense qu'on avait skippé ce bout-là.
On avait skippé ce bout-là. Et là, donc, Joseph, Marie et l'enfant Jésus vont donc quitter et vont s'exiler en Égypte. Et alors qu'ils sont en Égypte, à nouveau, Hérode décède. Et là, un ange va réapparaître à nouveau, disant à Joseph, Marie, vous pouvez retourner en Judée. Ceux qui voulaient la mort de l'enfant Jésus est disparu, est mort. Donc, vous pouvez retourner. Et à ce moment-là, ils vont retourner en Judée et s'établir à Nazareth. À ce moment-là, ils vont demeurer là jusqu'à ce que Jésus entreprenne son ministère de l'âge de 30 à 33 ans. Les évangiles sont relativement silencieux sur cette période de jeunesse et de jeune adulte de Jésus. On ne sait pas grand-chose. Il y a des textes qui en parlent. C'est ce qu'on appelle des textes apocryphes, donc des textes qui ne sont pas réunis dans les 4 évangiles que l'on dit, évangiles canoniques. Puis ça aussi, il faut quand même le préciser, quand on ouvre la Bible, on a 4 évangiles. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui. Et ces évangiles-là, c'est ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls textes écrits. Il y en a d'autres qui ont été écrits. Je pense à l'évangile de Thomas, par exemple. Et ces évangiles-là, ou l'évangile de Simon aussi. Mais ces évangiles-là sont considérés, qu'on dit, textes apocryphes. Et contrairement à ce que certains peuvent vouloir faire croire, les textes apocryphes ne sont pas des textes interdits, ce ne sont pas des textes maudits. Ce sont simplement des textes qu'à un moment donné, aux alentours de l'an 400, là, à peu près, là, on va se réunir, en fait, je dis 400, mais en fait, c'est l'an 320, c'est ce qu'on a appelé le Concile de Nicée. On va réunir, à ce moment-là, le christianisme est naissant, on va réunir des grands évêques, et ces gens-là vont un peu se pencher sur l'ensemble des textes religieux, et ils vont choisir quels seront les textes canoniques, et c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui vont être choisis. Les autres textes, pas qu'ils sont pas intéressants, mais ça n'apporte rien de plus, de savoir que Jésus, quand il avait 12 ans, a ressuscité un pigeon, là. Ça apporte rien de plus, là. Donc, on va mettre de côté ces fameux textes apocryphes. Ils sont pas interdits, c'est pas des textes maudits. C'est simplement des textes qui n'ont pas une reconnaissance en tant que texte canonique qu'on retrouve dans les évangiles. Mais bref, c'est un peu, grosso modo, la naissance du Christ. C'est cette histoire-là qu'on va raconter. Ben, tu vas être très surprise de savoir qu'il y a à peu près rien de ça qui est rapporté dans les évangiles. Toute cette histoire-là, c'est un collage de différentes traditions qu'on a ramassées ensemble, qu'on a collées pour faire un tout qui soit cohérent, okay. Mais qui n'est pas forcément dans les évangiles. D'ailleurs, bon, premièrement, réglons tout de suite cette question. Est-il né un 25 de décembre? La réponse est non.
Pourquoi on allait à la messe à minuit d'abord? Ouais.
En fait, on n'a pas la date de sa naissance, même le moment de sa naissance est un peu laborieux. On ne sait pas exactement quand il est né. Si on regarde, par exemple, des évangiles, sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y en a que 2 qui parlent de la naissance de Jésus. Okay. Les 2 autres, c'est 0. Pas un mot sur comment il est enfanté, la mère était une vierge, rien de ça. Donc, il y a 2 seuls évangiles qui parlent de la naissance de Jésus. Et dans les 2, évidemment, il ne donne pas de date. y en a un, par exemple, qui est Luc. Lui, il parle du recensement. Il est le seul à parler du recensement. En fait, les deux évangélistes qui parlent de la naissance de Jésus, c'est Matthieu et Luc. Dans Luc, par exemple, il ne parle pas il dit pas un seul mot à propos du massacre des innocents, là, Hérode qui fait tuer les enfants, il parle pas de ça. Il parle pas des rois mages. Lui, il parle plutôt de bergers qui auraient vu des signes célestes et qui auraient été jusqu'à l'étable où était Jésus. Puis là, encore là, il reste très, très vague sur où l'enfant Jésus va naître. Il parle de signes dans le ciel, donc qui guide ses bergers. Et il ne dit pas un seul mot à propos de l'exil en Égypte. Donc, déjà là, on a un récit qui est excessivement pudique. Hein? Il parle simplement qu'il y a eu un recensement, puis que Joseph s'est présenté à Bethléem. Donc, si on se fie à cette information-là, il est d'ailleurs le seul à parler du recensement, si on parle du recensement, d'abord, il y a une erreur. Hein. À l'époque, on croyait, puis on le voit dans les films et les adaptations des récits de la naissance de Jésus, que les gens vont se déplacer pour aller dans leur ville pour se recenser. Ça, c'est faux. C'est une fausse croyance. Ça. Les gens, lorsque Rome demandait un recensement, les gens étaient recensés dans la ville où ils se trouvaient. Il n'était pas nécessaire de retourner dans leur ville d'origine. Donc ça, c'est un mythe hein, qui a été entretenu, mais qui est aujourd'hui, on le sait, les archéologues ont suffisamment fait de travaux, on a suffisamment de documents pour démontrer très clairement que ça, c'est une invention. Et en revanche, on n'a aucune idée d'où venait Joseph. Donc, on nous dit il vient de Bethléem, mais bon, tu vas comprendre que ça, c'est probablement faux, mais néanmoins, on aime bien le renvoyer à Bethléem et tu vas comprendre pourquoi. Mais si on se fie, hein, il y a que Luc qui parle d'un recensement, bien, on sait que Rome avait déclenché un recensement à peu près 4 ans avant la soi-disant naissance de Jésus. Hein, si on prend, par exemple, l'an 0, là, on se dit, bon, l'an 0, c'est l'année de naissance de Jésus, mais on sait que le recensement de Rome était intervenu un peu plus tôt. Il y avait eu un recensement aux alentours de l'an moins 3 ou moins 4. Donc, si Jésus naît durant le recensement, si on se réfère à Luc, et encore une fois, faut-il le préciser, il est le seul à parler de ça, ça veut dire que Jésus est donc né quelque part aux alentours de l'an moins 3 ou moins 4. Donc, au moment où il y a ce grand recensement romain. Non pas donc en l'an 0, mais en l'an moins 3, moins 4. Okay. Ensuite, est-il né le 25 de décembre? Déjà, on sait qu'il n'est pas né en l'an 0, mais il n'est probablement pas né non plus le 25 de décembre. Alors, pourquoi le 25 de décembre? Comme on n'a pas la date de sa naissance, il faut se rappeler que durant la grande période au Moyen-Âge, tout ça, il y avait eu une grande période d'évangélisation, notamment de ce qu'on appelait les impies, hein, donc des gens qui n'étaient pas d'obédience chrétienne. Donc, il y avait tous ces missionnaires qui parcouraient l'Europe pour essayer de convertir ces gens-là à la foi chrétienne. Et beaucoup d'entre eux avaient leur propre croyance, leur propre culture. Et une des croyances qui était le plus répandue, c'est la croyance dans le solstice d'hiver et le solstice d'été. Et à ce moment-là, ben tu dis bon parce qu'on savait, on mesurait le mouvement des astres, tout ça, et donc même les sociétés les plus impies avaient des cultures qui se développaient autour de ça. On pense par exemple à la fête des morts, la fête la fête de la moisson. Il y avait toutes sortes de fêtes, un calendrier païen, et dans presque tous les calendriers païens, il y avait cette fête aux alentours du 21 mars qui marquait justement l'équinoxe de le solstice d'hiver. Donc l'Église catholique s'est dit, plus on va mettre une fête religieuse proche d'une fête païenne, plus qu'on a de chance de faire oublier la fête païenne. Tu comprends?
Okay.
On n'a pas voulu imposer, l'Église n'a pas voulu mettre la fête, la naissance. Comme on n'avait pas de date pour la naissance du Christ, il fallait bien s'en trouver une. Et tant qu'on en choisir une, bon, on aurait pu choisir le 21 décembre. Mais comme c'était une date qui était partagée à peu près par l'ensemble des calendriers païens, on s'est dit, ces gens-là accepteront pas ça. T'sais, il va y avoir une espèce de une vindicte. Là, t'sais, pourquoi choisir la date de ce solstice d'hiver pour mettre la date du Christ? Donc, on l'a mis 3 jours plus tard. Donc, au lieu que ce soit le 21 décembre, c'est le 25 décembre. Donc, ça a été ce choix-là. Et pourquoi en décembre? Ben, parce que en décembre, les nuits cessent de rétrécir à partir du 21 décembre, les nuits cessent de rétrécir et le jour devient de plus en plus grand. On a de plus en plus de lumière. Et comme le Christ avait dit, je suis la lumière du monde, on a dit, le mois de décembre, c'est un bon moment. C'est le moment où la lumière devient de plus en plus présente, et ce, jusqu'au milieu de l'été. Donc, c'est la venue de la lumière, et la venue de la lumière, elle est représentative dans la religion catholique, bien sûr, de la naissance du Christ. D'où la raison de ce choix du 25 décembre. Donc, on sait qu'il n'est pas né le 25 décembre, puis on sait qu'il n'est pas né en l'an 0, mais probablement aux alentours de l'an moins 3, moins 4.
Quelqu'un qui pose la question, est-ce que ça fait en sorte que nous, on est en 2020 et non pas en 2023? Et je la trouve moyennement drôle parce qu'on se souvient tous de 2020. Là. On veut pas y retourner.
Oui, on veut pas revenir en arrière. Non. Puis il faut dire aussi qu'il y a eu une adaptation. On avait un calendrier qu'on appelait le calendrier romain. Le calendrier romain avait quand même pris du retard parce qu'il calculait mal les années bissextiles. Donc, à un moment donné, on a perdu une dizaine de jours là, quand on est passé du calendrier romain au calendrier grégorien. Là, à un moment donné, on s'est dit, ben là, il faut reprendre les jours manqués. Fait qu'on on a perdu 10 jours. On est passé comme, je te donne ça un peu aléatoirement, mais on est comme passé comme du 4 juillet au 14 juillet.
Okay, on a fait un bond dans le temps.
C'est ça. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, il n'y a jamais eu de 8 juillet 1452. Là. Ça n'a jamais eu lieu. Tu comprends-tu? Donc, on a perdu 10 jours. Mais c'est pas exactement ces dates-là. Je les ai pas en mémoire, mais bon, c'est un peu un jeu comme ça qui s'est fait.
Okay.
Mais donc, on sait qu'il est né donc un peu avant la date qu'on lui présume de l'histoire. Il n'est pas né le 25 décembre. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que sur les 4 évangélistes, comme je te le mentionne, il n'y en a que 2 qui parlent de sa naissance. Un seul parle de ce recensement. Et l'autre évangéliste qui en parle, qui est Matthieu, lui en parle plus de manière plus soutenue. Mais encore une fois, ces détails sont contradictoires par rapport à ceux de Luc. Par exemple, Matthieu ne parle jamais, par exemple, de cette idée de recensement. Il n'en parle pas. Il nous mentionne simplement que Marie et Joseph se trouvent à ce moment-là à Bethléem et que Jésus va naître dans cette étable. Lui, il parle du massacre des innocents. Hein, il dit, bon, et c'est assez curieux, il va introduire les mages qui ne sont pas dans Matthieu, qui ne sont pas non plus des rois. Ce sont des mages. Donc, des mages vont se présenter chez Hérode et vont demander à Hérode, est-ce que vous êtes au courant qu'un nouveau roi est né en Judée? C'est comme te mettre le pied dans la porte, tu sais.
Ah ouais.
Tu t'en vas voir Hérode, tu sais, savais-tu que t'as un nouveau roi qui est né dans ton pays?
Il y avait du chouinage.
Ouais, c'est ça. Donc, Hérode, et là, tout ça, c'est assez étonnant. On voit rarement ça dans les récits. Là. Mais là, Hérode va faire suivre, va faire espionner ces fameux mages, qui, encore une fois, ne sont pas des rois mages, ce sont des mages. Donc, des mages, c'est un peu comme des sorciers, des astrologues. Donc, ces gens-là vont finalement se rendre à Bethléem, toujours surveillés par les hommes d'Hérode. Et ils vont se rendre dans cette petite étable où est né Jésus. Ils vont lui donner leur trésor. Faut dire aussi que Matthieu ne parle pas du nombre. On ne sait pas combien sont-ils, ces mages. Il dit pas, on a 3 rois, on a 3 mages, ou 4 mages, ce sont peut-être 10 ou 25 ou 2 seulement, on ne sait pas.
Okay.
Il ne mentionne ni leur nom, ni leur nombre. Il dit, ils se présentent donc à l'étable et ils vont donner leur trésor qui est constitué de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et si tu te poses la question, qu'est-ce que de la myrrhe? Parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question-là à un moment donné. C'est pas ça de la myrrhe. En fait, c'est une espèce de donguant assez visqueux qui était tiré d'une plante d'origine végétale et c'était très rare, très précieux. On l'utilisait à la fois pour son odeur, mais on disait également que la myrrhe avait des qualités curatives. Donc, c'était un espèce d'onguent qu'on pouvait mettre sur des blessures et qui guérissait, hein, qui avait quasiment des propriétés miraculeuses. C'est ça, la myrrhe. Donc, qu'on donne ces trésors-là. Et ensuite, encore une fois, seulement Matthieu parle de cet exil de Joseph, de Marie vers l'Égypte. Et il n'est lui aussi que le seul à parler, comme je l'ai mentionné, du massacre des innocents. Il est le seul également à parler de cette apparition qui va permettre à Joseph et à Marie de revenir en Judée où ils vont s'installer à Nazareth. Donc, on a déjà là des récits qui sont excessivement différents. Les deux récits sont assez différents et sur les 4 évangélistes, 2 seulement ne parlent de ce récit-là et avec des éléments qui sont très éloignés des récits qu'on nous montre dans les films et le cinéma. D'ailleurs, essentiellement pour te dire que ces fameux rois mages, hein, qui se nomment Gaspard, Melchior et Balthazar, dont d'ailleurs Balthazar, avec les années, avec les siècles, est devenu un peu plus bronzé, hein, parce qu'au départ, ce sont 3 hommes occidentaux, hein, de culture un peu occidentale, et c'est normal, puisque le christianisme s'est développé principalement dans une culture occidentale. Les trois rois mages sont blancs. Hein. C'est le récit des rois mages, d'ailleurs, va prendre forme aux alentours, assez tardivement d'ailleurs, entre le 6e et le 8e siècle. Et Balthazar va éventuellement devenir un homme de race noire.
Hein,
pour,
okay.
parce que bon, et tout ça très souvent c'est dans un but un peu d'évangélisation, hein. Je veux dire, si on met un individu par exemple de race noire, ben ça va être plus facile par exemple de porter le message à des communautés africaines par exemple, si parmi dans le récit à quelque part ils peuvent s'associer ou s'identifier à des personnages de l'histoire.
Ah, fait que si ça avait un dessin vraiment plus pour aller attirer les gens à la religion, alors qu'aujourd'hui on dirait c'est pour l'inclusivité.
Ouais, et ensuite on va prendre une pause, mais ensuite, oui, je vais te raconter d'où vient l'idée de cette fuite vers l'Égypte de Marie, Joseph, et bien sûr, pourquoi Bethléem va-t-elle jouer un rôle si important dans la naissance de Jésus. Tout ça n'a rien à voir avec la religion, mais essentiellement pour des besoins de l'histoire.
On met la table en ce début de temps des fêtes ensemble, et une des rares fois qu'on va dire ça, Christian et moi, ben ce qu'on a appris à l'école, on peut jeter ça aux poubelles, et là on a le vrai point de vue historique.
Ouais, effectivement.
Avec Christian Page ce soir, vous écoutez Radio X-Files. On est de retour dans quelques minutes.
Radio X avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Oh, c'est... Laisse-moi le voir.
Il est si beau.
Nous devons répandre la nouvelle.
Nous devons répandre la nouvelle.
Nous devons le dire à tout le monde.
À tout le monde, oui.
Oui, merci.
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 Merci. Nous l'attendions depuis si longtemps. Si longtemps. Oh. Comment allez-vous l'appeler?
Jésus.
Je dois y aller. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir.
Les gens doivent savoir.
De retour à l'émission, Christian, et je réalise que j'ai jamais osé poser la question de pourquoi il s'appelle Jésus. Tant qu'à rester de pourquoi il est né le 25 décembre. Ouais, il est pas né le 25 décembre.
Il devait s'appeler Emmanuel, d'ailleurs, au départ. Là,
OK!
L'archange avait dit qu'il devrait s'appeler Emmanuel, mais bon, enfin, il s'appelle Jésus. Mais bon, Jésus était un nom excessivement répandu à l'époque.
Ah, OK.
Pourquoi Jésus? Mais dans ce qu'il faut savoir ici, dans notre deuxième partie d'émission, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Bible n'est pas un livre d'histoire.
Non.
La Bible est un livre qui rapporte des textes qui ont été catéchisés. Et si on comprend pas ça, on passe au côté de la plaque, là. Ce sont des textes, les auteurs de ces livres-là, de ces écrits-là. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de Matthieu, Marc, Luc et Jean, là. C'est pas quatre personnes qui ont écrit ça, là, qui se sont assis un soir, là, en disant, moi, j'écris, là. C'est pas ça qui s'est passé, là. Les évangélistes ont existé, mais les textes que l'on attribue à Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des textes, ce sont des collages de différents textes, et on a décidé de les réunir sous différentes bannières. Par exemple, on s'est dit, bon, tous les textes religieux qui viennent de plusieurs auteurs, hein, ces textes religieux qui parlent, par exemple, de la vie terrestre de Jésus, on va les réunir sous la bannière de Luc. Ça veut pas dire que tous les textes ont été écrits par le même auteur, il peut y avoir plusieurs auteurs, mais les textes qui parlaient de la vie terrestre de Jésus ont été réunis sous la bannière de Luc. Alors que les textes qui parlent d'une vie plus spirituelle de Jésus vont être réunis sous l'égide de Matthieu.
Okay.
Et donc, tu vois, donc ça a été un peu comme ça. Donc, on a fait un clivage et on a attribué des textes. On a donné quatre grands chapiteaux pour classer les textes. Et ces grands chapiteaux, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, il faut s'enlever de la tête quatre bonhommes là, qui, avec leur encrier, décident d'écrire un matin. Là, ça se passe pas comme ça. Donc, ce sont des textes qui sont catéchisés. C'est-à-dire que les gens qui écrivent ces textes-là n'ont pas pour but de rendre compte de l'histoire. En fait, là, ils en ont rien à cirer de l'histoire. L'histoire n'est pas leur préoccupation. Ce qui les importe, eux, c'est la philosophie, le message, la spiritualité derrière le message. Donc, à savoir, le gars, y a-tu marché sur l'eau, y a-tu pas marché sur l'eau, y a-tu été à Jérusalem avant d'aller à Bethléem ou de Bethléem à Jérusalem, on s'en sac. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui est important. C'est la façon dont les textes sont catéchisés pour rapporter un message. Donc, si on, à partir du moment où on comprend ça, on peut comprendre que les auteurs ont fait des écarts importants par rapport à l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a des historiens, des archéologues à travers le monde, en dehors de l'obédience, hein, qui sont pas forcément des croyants ou des chrétiens convaincus, mais ils ont décidé de faire de leur modèle de recherche l'archéologie biblique, hein. Eux, il y a des gens qui disent, nous, on va s'intéresser à l'archéologie égyptienne, d'autres à l'archéologie du Mésoamérique, d'autres de l'archéologie en Amérique du Sud. Et il y a des gens qui se disent, nous, on va, ces textes-là, l'histoire que racontent ces récits-là, on va faire l'archéologie autour de ces récits-là, comme d'autres font des récits autour des grandes mythologies. Hein. Il y a des archéologues en Grèce, par exemple,
ouais.
Ils sont convaincus, ils savent bien que le Minotaure n'a pas existé, puis il n'était pas caché dans un labyrinthe, puis tu sais, tu comprends, Thésée n'a pas suivi le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe, mais on fait de la recherche mythologique autour de ces grands récits fondateurs qui marquent la mythologie grecque. Et c'est un peu la même chose avec les archéologues qui se sont consacrés à cette mystique un peu du christianisme ou du judaïsme et qui font de l'archéologie biblique. Et j'ai pu les rencontrer, j'ai passé des semaines avec eux sur des chantiers et on a parlé de toutes sortes de choses. Et leur vision, eux, c'est de voir dans quelle mesure on peut documenter certains événements archéologiques et comment on peut voir, quelle lumière, en fait, que ces preuves ou ces documents archéologiques, ces éléments archéologiques vont éclairer la connaissance que l'on a du récit biblique. Et dans ce récit-là, ce que l'on apprend, c'est que on voit bien que les auteurs de des évangiles ont réellement fait à peu près du grand n'importe quoi, du collage à gauche et à droite, dans le but de créer un récit qui soit à la fois instrumentalisé, mais qui en même temps permet d'avoir une trame de fond d'un récit qui va se tenir pour être le point de départ, le point d'ancrage d'une psychologie et d'une foi religieuse.
Il faut garder des gens captifs aussi, voilà. Il faut que ce soit intéressant.
Voilà. Et dans ce récit-là, il y a plusieurs éléments que il faut. La grande erreur à ne jamais faire, c'est de lire ces récits-là et de les prendre textuellement. Tu sais, quand on dit tel truc se passe, là, faut pas prendre ça textuellement. Il faut essayer de regarder ce qu'il y a un message derrière ça et quelle est la tradition que l'on veut avec ça. Et la naissance de Jésus est un excellent exemple de ça. Par exemple, Bethléem. Pourquoi choisir Bethléem? Moi, j'y suis allé, Bethléem, là, c'est un tout petit hameau. Hein. Puis c'est assez amusant parce que Bethléem, quand on est à Bethléem, il y a une église, hein, qui est l'église de la nativité. Donc là, tu rentres là. Puis là, je sais pas si t'as été... As-tu visité cette région-là?
Moi, j'ai un voyage chrétien de prévu. Puis je sais que l'actualité est bien grosse, stressante, mais en octobre, l'an prochain, je devrais partir faire l'Égypte, la Grèce et la Turquie. Et il y a un passage en Israël et à Jérusalem.
Écoute, c'est merveilleux, c'est marcher dans l'histoire. Hein. Ça n'a pas d'importance que l'on pense, pas l'importance que l'on croit. Ici, là, on marche dans les briques qui ont fabriqué le monde occidental.
Je me croise tellement les doigts juste pour voir aussi, ne serait-ce que les pyramides. Puis j'irais à Bethléem. Il y avait une excursion qui me donnait la possibilité d'y aller, mais actualité oblige, on se croise les doigts possiblement que je ne pourrais pas y passer là, avec la guerre.
Et à Bethléem, tu rentres là, puis il y a une église de la nativité. Bon, là, ce que je te dis là, va pas lui dire ça, il ne sera pas content.
OK, OK.
Mais là, il y a une église de la nativité. Fait que là, tu rentres dans l'église de la nativité, puis là, ils t'amènent. On descend, c'est quasiment au sous-sol, et une petite pièce. Puis là, on nous dit ça, là, c'était autrefois la fameuse crèche. En fait, c'était l'étable où Jésus est né ici. Mais l'archéologie ne nous dit pas ça. L'archéologie nous dit que Bethléem n'a joué aucun rôle dans la naissance de Jésus. Il n'est probablement pas né à Bethléem. Il est probablement né à Nazareth. S'il y a eu un Jésus historique, il est probablement né à Nazareth. D'ailleurs, tout le récit, hein, d'ailleurs, s'articule autour de Jésus le Nazaréen. On parle jamais de lui comme étant le Bethléemien, là. On dit pas qu'il vient de Bethléem. On dit c'est le Nazaréen.
Ouais.
Alors pourquoi est-ce qu'on évoque Bethléem? Parce que Bethléem, c'est la terre qui a vu naître le roi David. Le roi David, hein, celui David et Goliath, là, troisième roi d'Israël. Il est le père du roi Salomon qui va faire construire le temple de Salomon. Et dans la tradition chrétienne, pour avoir cette continuité avec le judaïsme, parce que le christianisme va être un peu tentaculaire du judaïsme, il faut rendre hommage à la maison de David. Et la maison de David passe obligatoirement par Bethléem. pour que la prophétie s'accomplisse, hein, pour reprendre des termes, hein,
oui.
Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que le Messie naisse à Bethléem. Et c'est pour ça que le récit, pour ça que deux des évangélistes vont situer la naissance de Jésus à Bethléem. Mais dans les faits historiques, la notion de Bethléem n'est très certainement qu'une notion spirituelle pour associer la naissance de Jésus en disant, voici, c'est sûr qu'il est l'agneau de Dieu parce qu'il est né à Bethléem. Et la terre de Bethléem, c'est la terre qui permet un suivi, une correspondance avec la maison du roi David. Donc, tu comprends, ça, c'était très important que le Messie naisse à Bethléem. Donc, les auteurs se sont arrangés pour faire naître Jésus à Bethléem. Ensuite, on veut aussi garder cette notion-là, cette succession avec le judaïsme, hein, parce qu'il faut toujours penser que Jésus est à la fois une séparation de l'ancien judaïsme, hein, qui est marqué par, dans nos Bibles, c'est l'Ancien Testament, la Torah juive, mais c'est en même temps une coupure, hein, une nouvelle alliance, mais en même temps, c'est une succession. Or, tout le récit de l'exil vers le désert nous rappelle Moïse.
Oui.
On se rappelle que Moïse est allé en Égypte. Il est resté dans le désert, il a erré dans le désert pendant 40 ans après avoir fait sortir les Hébreux esclaves de Pharaon, les avoir fait sortir d'Égypte et les amener dans le désert. Ce récit-là, encore une fois, l'archéologie biblique nous dit que ça n'a jamais existé. Moïse, si Moïse il y a eu, ce Moïse était probablement un petit chef de clan à peu près sans importance. Mais on aime, hein, lire ici, il faut se rappeler que l'histoire de Moïse nous place à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ, et les premiers textes de la Torah qui vont parler de Moïse vont être écrits aux alentours de l'an 600 avant Jésus-Christ. Donc on a à peu près un 600 ans de tradition, un 600 ans qui a transformé Moïse, chef de clan, en un super Moïse qui guide les Hébreux à la sortie d'Égypte, traverse la mer Rouge à Gué et va errer 40 ans dans le désert du Sinaï. Les recherches archéologiques montrent qu'il n'y a jamais eu d'occupation importante du Sinaï, parce que la Bible nous parle de 200 000 fidèles qui vont suivre Moïse. Or, 200 000 fidèles dans le désert du Sinaï, faut le dire, hein, ça fait beaucoup pipi, puis ça fait beaucoup caca ça, pendant 40 ans.
Ben
et
oui.
On n'a rien trouvé de ça. Donc, cette occupation-là n'existe pas. Il y a eu des petits groupes qui ont occupé le Sinaï, de façon plus ou moins irrégulière, mais cette grande occupation-là n'existe pas. Également, dans les textes égyptiens, il n'y a aucune référence, on sait d'ailleurs aujourd'hui, grâce à l'archéologie, encore une fois, que les constructeurs des pyramides étaient des employés, hein, c'était pas des esclaves. Ces gens-là étaient employés par Pharaon, on leur donnait le gîte, on leur donnait la nourriture, et ces gens-là travaillaient aux constructions des grands temples, aux grandes pyramides, et donc c'était pas des esclaves comme on l'imagine. Donc, et si tu comprends bien que si un individu avait fait sortir 200 000 soi-disant esclaves d'Égypte et que les armées de Pharaon auraient été noyées par les eaux de la mer Rouge se refermant sur eux, ben, il y aurait quand même que les Égyptiens étaient extraordinaires pour écrire tout sur tout. Hein? Ouais, Monique s'est acheté une nouvelle paire de souliers. Ah ouais, on va l'écrire. Tu sais, il y a à peu près de tout sur tout. Or, tu comprends qu'un tel événement aurait été marqué, aurait laissé son empreinte dans la pierre. Il n'y a rien de ça. D'ailleurs, comme dans le récit de la naissance de Jésus, le fameux massacre des innocents où Hérode fait assassiner les enfants, ça n'existe pas non plus. Hein. Il n'y a aucun récit qui parle de ça. Et tu comprends bien qu'un tel massacre aurait laissé des traces dans l'histoire. Il y aurait quelqu'un qui en aurait parlé. Hein. Tout le monde n'était pas à la botte de Rome. Hein. Et tous les écrits, qu'ils soient grecs, peu importe, égyptiens de cette époque, aucun d'entre eux ne parle de ça, de ce massacre des innocents. C'est essentiellement un fantasme. Et un fantasme, pourquoi? C'est le massacre des innocents. Il faut se rappeler qu'il y a eu exactement la même chose dans Moïse. Hein? Lorsque Moïse naît, Pharaon apprend qu'un nouveau sauveur est né en Égypte et il décide de faire massacrer des enfants, et c'est comme ça que la mère de Moïse va placer le petit Moïse dans un panier d'osier et l'envoyer sur le Nil où il va être récupéré par la mère, la fille de Pharaon. Hein? Donc c'est pour échapper au massacre des innocents qui a lieu à ce moment-là que Moïse va être sauvé.
Donc on n'a rien inventé.
Non, on récupère exactement, c'est le récit de Moïse l'église qui est renouvelée, qui est recyclée. Hein. Cette fois-là, le massacre des innocents n'est pas fait par Pharaon, mais il est fait par Hérode. Et Joseph, Marie et Jésus vont fuir dans le désert pour échapper au massacre, comme Moïse va entraîner les Hébreux dans le désert pour échapper au joug de Pharaon.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'est qu'on a voulu faire croire que vraiment Jésus a existé ou c'est une tradition, soit des écrits qui se sont perdus, qui ont
non,
été...
Non, ce que l'on veut montrer par l'écrit, c'est que Jésus est bel et bien le bon prophète. Il est celui qu'on attend. Hein.
Okay.
Sa vie se calque sur celle de Moïse.
Okay.
Il est né dans le royaume du roi David. Il est le prophète annoncé.
Okay.
Et par lui, la prophétie peut s'accomplir. Mais on le comprend, là, tu sais. Moi, personnellement, j'en parle de ça, puis écoute, j'ai des frissons parce que j'aime tellement l'histoire, là. Mais de voir comment tout ce récit-là va s'articuler pour donner naissance au christianisme, c'est quand même fabuleux de voir un peu comment les gens vont articuler cette histoire-là. Maintenant, l'archéologie, elle, les archéologues, et je sais pour avoir passé beaucoup de temps avec eux, ces gens-là ne sont pas là pour te convaincre que Jésus existait ou pas existait. Ça, ils en ont à peu près, excuse-moi l'expression, ça peut paraître un peu grossier, mais ils en ont un peu rien à foutre. Hein. C'est simplement d'essayer de déterminer. Et jusqu'à maintenant, il y a quand même des éléments, bon, on sait... Si on essaie de résumer, Jésus est pas né en l'an zéro. Jésus n'est pas probablement pas né à Bethléem. Pis c'est ça, comme je te disais, à Bethléem, ils ont l'église, la nativité. Fait que si tu vas là, va pas dire aux gens, ouais, mais il est bien possible qu'il soit jamais né ici, là. Tu sais, là. Écoute, ils vont te lapider, là.
C'est ça. J'ai pas envie de m'assiner avec des gens au Moyen-Orient ces temps-ci.
Non, c'est ça.
Je vais prendre mon trou, comme on dit.
Puis ces gens-là, bien sûr, hein, c'est une tradition. Hein, l'église, la nativité, c'est pas quelque chose qui a été inventé la semaine passée, là. C'est pas un nouveau commerce. C'est pas un nouveau McDonald's qui a poussé là la semaine passée,
non.
Là. C'est de tradition. C'est depuis des siècles, hein, qu'on désigne cet endroit-là comme l'endroit où est né Jésus. Mais encore une fois, parce qu'on a besoin de catéchiser le lieu pour lui donner un point d'ancrage dans l'histoire. Ce que les archéologues savent, c'est que, encore une fois, pour revenir un peu à notre discours du début, il y a probablement eu un personnage important, une espèce de prédicateur de son temps qui a marqué l'imaginaire de son temps. Il n'est probablement pas né à Bethléem. Hein. S'il naît à Bethléem dans le récit, c'est parce qu'on a besoin d'y trouver une filiation avec la maison du roi David. L'idée de l'exil et du massacre des innocents orchestré par Hérode est un copie-coller de l'exode de Moïse dans le désert pour échapper au joug des Égyptiens et la mort des armée de Pharaon et aussi le massacre de Pharaon vers les enfants hébreux pour empêcher un roi de prendre le pouvoir. Exactement la même motivation qu'on va attribuer à Hérode pour le massacre des innocents. Et ensuite, ces gens-là, ce Jésus, le récit biblique après ça fait vite le saut pour toujours nous le présenter comme étant le Nazaréen. Donc, il grandit, il va vivre à Nazareth et il y a de fortes chances qu'il soit né justement à Nazareth. Dans le récit, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, l'archéologie qui s'est beaucoup développée hein, grâce à des nouvelles méthodes. On pense par exemple au LIDAR, hein, le LIDAR qui permet de prendre des photographies et de montrer des structures qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont sous la canopée des arbres.
Okay.
Par exemple, en Amérique centrale, hein, on pouvait pas voir les temples le Maya dans la jungle, parce qu'il y a la jungle, mais le
tu
LIDAR
perdre,
permet
là,
de voir,
ça.
Et le même LIDAR permet de faire apparaître des structures qui sont enterrées, dissimulées dans le sable, et grâce à ces nouvelles technologies, et évidemment la technologie du satellite et tout le reste, on voit que le récit biblique, même si l'élément fantastique, il est complètement articulé, complètement retravaillé dans le but d'alimenter une croyance religieuse, on voit que sur la trame de fond, les auteurs ont quand même travaillé sur des lieux qui ont bel et bien existé et sur des moments de l'histoire qui ont bel et bien existé. Donc, on a pu documenter certains personnages. Par exemple, on a trouvé il y a quelques... quelques décennies, une vingtaine d'années maintenant, l'ossuaire de ce qu'on croit être l'ossuaire de Caïphe. Caïphe qui était le grand leader du hébreu, juif, de Judée à cette époque-là, et qui a été un peu le némésis de Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait pression auprès de Hérode et auprès d'Hérode Antipas et aussi auprès de Pilate pour que éventuellement on se débarrasse de Jésus parce que son discours allait à l'encontre des enseignements de hébraïque. Donc ce Caïphe, hein, le chef du Sanhédrin, ben, il y a quelques décennies, on l'a trouvé justement à Jérusalem, on a trouvé un ossuaire qui une boîte sur laquelle était gravé le nom de Caïphe. Donc encore une fois, on peut pas arriver avec une affirmation à 100% de dire ça, c'est l'ossuaire de Caïphe, mais quand même, un ossuaire qui était richement décoré dans une tombe richement décorée qui porte le nom de Caïphe, qui a été enterré suivant la méthode de sépulture du 1er siècle chez les Juifs. La coïncidence est quand même extraordinaire. On a découvert il y a quelques années, par exemple, un grand bassin qui est la piscine de Siloé. Hein. Donc, quand Jésus, par exemple, va guérir l'aveugle,
hein, oui, c'est dit, dans cette voilà, piscine-là.
Il dit, va te laver à la piscine de Siloé et tu vas retrouver la vue. Or, cette piscine-là, on ne savait pas c'était où, mais c'est un grand bassin qu'on a découvert il y a quelques années à peine. Donc, on voit que les auteurs, même s'ils ont articulé un récit pour mettre leur messie plus grand que nature, et là, ben, c'est à la religion de se prononcer sur quelle était la grandeur du personnage, mais on voit que l'histoire et l'archéologie permettent de jeter un regard plus historique sur ce grand moment de l'histoire où le monde occidental est né. Parce qu'il faut pas se le cacher, hein. On a beau dire ce que l'on voudra, puis je suis tout à fait d'accord, hein. Les gens disent, ah, les maudites religions, c'est vrai que ça suscite énormément d'animosité, puis les guerres, puis ici, puis
ben,
ça.
Je pense que c'est la mère de toutes les conflits,
oui, c'est ça.
En fait.
C'est vrai que ça peut nous paraître tellement futile de dire, tu sais, je vais tuer mon voisin parce que lui, il porte pas un turban, puis je vais tuer l'autre voisin d'à côté parce que lui, il croit pas à Jésus parce qu'il porte pas une tunique. Ça nous semble un peu tellement futile, c'est cet argumentaire-là. Mais en même temps, il faut aussi se rappeler que le monde occidental est né avec ça. Le christianisme, entre autres, ça a été la locomotive la plus importante de tout ce qui est culture, hein, à la fois la culture littéraire, les arts, la musique. On pense à les grandes constructions des cathédrales en Europe. On pense à des grands chefs-d'œuvre de la musique baroque, par exemple. On pense à des œuvres d'art qu'on pense, par exemple, à Michel-Ange ou qu'on pense à Leonardo da Vinci. Les œuvres les plus importantes, ce sont souvent des œuvres qui avaient pour trame de fond justement le christianisme et la foi que ces gens-là avaient dans leur religion. Donc à la fois, oui, c'est vrai que si les religions ont été générateurs de guerre et à travers toute l'histoire, hein, c'est pas nouveau, hein, ça fait des millénaires que les gens se battent sur souvent des questions de foi et de croyance. Il n'en reste pas moins qu'au côté de ça aussi, il y a un côté plus lumineux, celui de l'inspiration que tout ça a apporté. Mais, cela étant dit, ça reste fascinant de voir comment ces récits-là, qui sont des récits fondateurs, qu'on véhicule encore dans la culture et la société d'aujourd'hui, comment ces récits-là peuvent être à la fois confirmés dans certains cas, mais aussi infirmés parce que les historiens et les archéologues découvrent jour après jour en faisant un travail tout à fait remarquable.